téléspectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux infos.
Twitter.
Les réseaux sociaux. Il est très cher. C'est intéressant. Ouais, hello.
Eh ben, il est 9h41, l'instant M, c'est court, mais ça en dit.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Virage pour le moins inédit. Le Parisien aujourd'hui en France frappe fort en cette période électorale face à des citoyens particulièrement déboussolés. À quoi bon taper sur ces sondages qui se trompent lamentablement, dit-on, si les journalistes continuent de s'engouinfrer. Les deux quotidiens vont désormais s'en passer. Enfin, on va voir. Plus de statistiques ni de projections pour combien de temps. Bonjour Stéphane Albouy.
Bonjour Samia.
Vous êtes le directeur des rédactions du Parisien aujourd'hui en France. Vous avez choisi l'instant M pour annoncer ce choix éditorial détonnant, mais surtout pour vous en expliquer. Ça
Absolument.
Tombe bien, on a beaucoup de questions à vous poser. Ce sera dans quelques minutes. 2017, Bruno Donnet is back tous les mardis. Salut Bruno.
Bonjour Sonia. Voulez-vous que je vous présente des vœux?
Oui, oh oui. Allez-y.
C'est fait.
Bah, c'est fait. Voilà. Alors, comme vous, Stéphane Albouy, Bruno Donnet a regardé les vœux du président de la République en se demandant en quelle année pouvait-on bien être.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Voilà, c'était donc samedi soir. Bruno, vous avez sérieusement posé vos abatis devant la télévision. Vous avez regardé les vœux de François Hollande et vous avez trouvé que votre télévision avait quand même, comment dire, une curieuse odeur de naphtaline.
Oui Sonia, vous pouvez le dire, je suis tombé samedi soir sur un mythe, que dis-je, un mythe, un vestige de l'ère médiatico-politique, les vœux du président de la République.
Je vous adresse du fond du cœur mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année.
Alors pourquoi un vestige? Eh bien parce que depuis De Gaulle et l'ORTF, figurez-vous que rien, absolument rien, n'a changé.
Voici 1963. À chacun de vous, j'adresse du fond de mon cœur mes meilleurs vœux.
Voilà, depuis 55 ans, le même cœur, les mêmes mots, bref, les mêmes vœux cadrés, figés, depuis l'Élysée, et pourtant, en un demi-siècle, dans la mise en scène de la parole politique, tout a changé, tout, sauf ça. Voilà pourquoi, tous les 31 décembre, le président de la République se pointe et cause dans le poste pendant 10 longues minutes, en majesté, sans personne pour le questionner, le contredire ou lui faire remarquer qu'à part lui, plus personne n'ose s'adresser à nous sur un ton à ce point paternaliste.
Vous pouvez être fier de vous.
Super. Alors à l'heure de l'interactivité, des réseaux sociaux et des gigantesques mutations politiques, cette excroissance médiatique apparaît comme une grande incongruité et elle a d'ailleurs mis ce samedi un peu mal à l'aise à la fois le président de la République et les télévisions qui, pour exprimer leur gêne mutuelle, se sont curieusement réfugiés dans une étonnante forme de désinvolture. Jugez plutôt. Désinvolte, François Hollande, qui n'intervenait pas en direct et qui aurait donc pu réenregistrer son message autant de fois qu'il le voulait, eh ben il a curieusement laissé diffuser des vœux au cours desquels sa langue n'a pas fourché une fois.
On l'a vu au Royaume-Uni.
Mais deux.
Notre propre principal adversaire, c'est le doute.
Voilà, rien à faire. Et paresseuses aussi les chaînes de télévision TF1 et France 2 qui ont retransmis ses vœux et qui, s'apercevant que c'était tout de même un petit problème de laisser le président tout seul se pousser du col comme ça pendant 10 minutes, ont toutes les deux opté pour le même dispositif, faire intervenir l'éditorialiste politique maison pour nous redire en 1 minute 30 ce que le président venait nous expliquer en 10, comme si quand Hollande disait ceci...
En Irak, où je me rendrai après-demain pour saluer nos soldats.
Il était absolument nécessaire qu'une journaliste se pointe pour nous dire ça.
Il partira demain soir en Irak.
Voilà, merci, on avait compris. Alors, on aurait préféré, à la limite, que lorsqu'il a dit ça...
La sécurité sociale est à l'équilibre.
Où ça?
Le nombre de demandeurs d'emploi baisse enfin depuis un an.
Quelqu'un vienne nous rappeler que le régime général de la sécurité sociale accuse un déficit de près de 10 milliards et que 643 000 personnes ont effectivement retrouvé du boulot en 2016, il y a tout de même un demi-million de chômeurs supplémentaires en France depuis mai 2012. Mais non, il a fallu se contenter de ça.
François Hollande était dans la défense de son bilan et de sa postérité, en quelque sorte.
Je forme donc un vœu pour 2017, chère Sonia, que le prochain président de la République arrête de nous adresser ses vœux ou que, mieux que ça, les médias cessent de les retransmettre. Allez, vive la République!
Vive la France!
Et vive Bruno Donnet. Stéphane Albouy, vous avez une réaction face à ce vestige?
Oui, c'est effectivement un exercice imposé. Mm-hmm. J'ai trouvé ça drôle, moi, qu'il enregistre et qu'il laisse les petits dérapages. En fait, il a voulu être tel qu'il est. depuis qu'on le connaît, voilà.
Il pouvait surtout aller filer à son réveillon.
Voilà.
D'accord. Et pourquoi que François Hollande ne s'est pas présenté, Bruno Donnet, à votre avis ?
À cause des sondages.
Exactement, parce que tous les sondages le donnaient perdant. Ça tombe bien, c'est notre sujet du jour, Stéphane Albouy.
L'instant M, avec Sonia De Villers.
Vous avez peut-être déjà été contacté. Une série de questions à laquelle on vous demande de répondre. Vous n'êtes qu'un petit pion dans ce que l'on appelle un échantillon représentatif de la population française. Personnes âgées, jeunes, hommes, femmes, riches, pauvres, l'Institut de sondage a essayé de reproduire une petite France. Il y a par exemple 3% d'agriculteurs dans la population active, ils devront donc être 30 dans l'échantillon de 1000 personnes. Cette petite France donnera ainsi la réponse du pays entier à la question posée.
Stéphane Albouy, directeur des rédactions du Parisien, journal local, et d'aujourd'hui en France, journal national. Vous prenez la décision radicale, inédite dans la presse quotidienne. Plus de sondages. Pourquoi plus de sondages ?
Alors, d'abord, je voudrais dissiper un éventuel malentendu.
C'est-à-dire allons-y.
Que, voilà, plus de sondages, effectivement, c'est une pause qu'on s'offre. On entre dans une séquence qui va être passionnante et on a décidé de l'aborder un petit peu autrement que ce qu'on fait d'habitude. Mais quand je dis que je veux dissiper
alors,
un malentendu...
Alors, vous rentrez dans une séquence particulièrement propice au sondage.
Absolument, absolument, qui est la séquence, bon, là, de la primaire de gauche, mais surtout de la présidentielle. On est déjà là-dedans. Et on a décidé de travailler, non pas différemment, mais je dirais de retourner à ce qu'est le cœur de notre métier. Voilà. Vous parliez des sondages qui se trompent successivement. Moi, je ne fais pas une attaque des sondages et je trouve qu'ils font bien, finalement, pas mal en tout cas, leur métier, et qu'ils donnent des instantanés. La difficulté et le problème avec les sondages, c'est aussi la façon dont finalement nous, les médias, nous les utilisons, et parfois, pour certains d'entre eux, nous oublions quelques règles de prudence. Voilà. Je pense
alors, parlons concrètement quand même, Stéphane Albouy, est-ce qu'il y a eu des ratés aux Parisiens ?
Aux Parisiens, sur les sondages, non,
il n'y a pas eu de ratés.
Il n'y a pas eu de ratés, il y a eu des sondages forcément où il y a eu des moments, à des moments donnés, des appréciations ou des instantanés qui ne se sont pas révélés être les bons dans la foulée. Alors, il y en a eu sur plusieurs séquences, parce que dans les sondages sur les municipales ou sur les régionales, il y a eu quelques petits moments avec des erreurs à la marge. Après, il y a eu des choses très intéressantes sur notamment la dernière séquence, et c'est pour ça que je veux pas qu'il y ait de malentendu, parce que notre sondeur, celui avec qui nous
Odoxa.
Travaillons, non, en fait, le dernier, c'est Ipsos, depuis le début de la séquence de la primaire, c'est Ipsos, mais Odoxa précédemment. Mm-hmm. Ipsos a été celui qui, dans la dernière ligne droite, a détecté la montée de Fillon et a fait en sorte que nous puissions faire le mardi une une du Parisien 5 jours avant l'élection avec Valls et Fillon côte à côte en tant qu'outsider. Mais plutôt que de parler de ça et des sondages ou de ce que certains estiment être les erreurs des sondages, nous on a décidé collectivement, alors ça fait beaucoup de débats aux Parisiens et au sein de notre rédaction, mais on a décidé qu'on allait, je vous le disais, retourner au cœur de ce qu'est notre métier, c'est-à-dire le terrain.
Non mais ça on va y venir, justement, on va y venir.
C'est-à-dire
parfois vous allez les remplacer justement ces sondages, mais en même temps on ne peut pas prendre une décision éditoriale aussi forte et aussi détonnante dans le paysage médiatique aujourd'hui. C'est devenu le ressort de la dramaturgie médiatico-électorale.
C'est peut-être ça aussi le problème. Vous voyez, vous dites c'est le ressort de la dramaturgie électorale. Enfin, moi je trouve que d'être dans la course de petits chevaux permanente,
ça
nous éloigne des sujets. Encore une fois, ça n'est pas une critique de la méthodologie des sondeurs, c'est l'exploitation que nous en faisons. Être dans cette succession permanente de petites photos.
Mais en même temps, vous pouvez pas dire jusqu'à présent tout va très bien, Madame la Marquise. Sinon, vous auriez pas opéré un virage aussi radical.
Non, mais c'est pas là encore la question des sondeurs en tant que tel. Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Vous entendez et vous en faites état régulièrement dans votre émission à juste titre la défiance qu'ont parfois les Français, les lecteurs par rapport aux médias. Je dirais aux médias en général. Ce discours qu'on entend de plus en plus sur le fait qu'on est associé à une forme d'élite, qu'on est coupé des réalités.
Ouais.
Eh ben, je crois qu'il faut l'entendre. Je crois qu'il faut entendre de temps en temps qu'on peut être critiqué dans ce registre-là. Et quand on entend cette critique, on se dit qu'est-ce que je peux changer dans ma pratique professionnelle qui ferait que justement je retisse un lien ou que je tisse un lien plus fort avec mes lecteurs, avec les Français. Et je pense que notre façon de travailler, en tout cas la volonté de travailler comme ça dans les prochains mois, à une période où la facilité par moment peut-être de faire appel plus aux sondeurs, eh ben ça, c'est de nature à nous rapprocher de nos lecteurs et à nous rapprocher des Français. C'est le sens de notre démarche.
Je propose d'écouter Nicolas Sarkozy. On est c'était... On était en 1995.
1995, tous les sondages donnent gagnant Édouard Balladur. Au soir du premier tour, il est troisième et son conseiller de l'époque, Nicolas Sarkozy, règle ses comptes.
La première victime ce soir, ce sont les instituts de sondage qui ont été dans leur immense majorité complètement balayés dans leurs prévisions.
Et voilà maintenant Manuel Valls. Devinez quand est-ce qu'il parlait Manuel Valls.
Tous les sondages se trompent, ils se sont trompés avant, ils vont se tromper sur cette élection présidentielle, ils vont se tromper aussi sur les primaires.
Les primaires, les primaires. Mmh. C'était la dernière fois en réalité, hein, ouais, Manuel Valls, ça s'était passé dernière semaine, c'était en 2011. Les primaires, c'est ça qui a fait voler en éclat, justement, la question de la crédibilité, de la légitimité. C'est cette population si mal définie, ce terrain si mal connu. L'électorat de la primaire ?
Non, alors effectivement, c'est une élection, je pense, particulièrement dure à appréhender pour les sondeurs. Maintenant, encore une fois, pour ce qui est de notre prise de position et du choix que nous faisons aujourd'hui, c'est une décision mûrement réfléchie. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la primaire en France, il y a eu d'autres interrogations. On a connu le Brexit, on a vu Trump. Même si finalement, Trump, avec du recul, on voit que les Américains, en nombre et en population, ont plus voté pour Hillary Clinton que pour Trump. C'est un autre débat.
Mais le Parisien, Stéphane Albouy, a été un très gros consommateur de sondages. Ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous en avez utilisé beaucoup, vous avez nourri vos papiers, vous en avez fait des gros titres, vous en avez fait des infographies, 2, 3, 4 colonnes, parfois. Il y a des grandes plumes de votre titre, comme Henri Vernet, par exemple, qui les ont abondamment... Commentez, est-ce que vous faites un mea culpa aujourd'hui ?
Ah non, du tout. C'est-à-dire que, alors d'abord, je reprécise bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai décidé, avec mes équipes, qu'on faisait une pause, voilà, hein, et qu'on allait aborder cette élection de manière différente, qu'on allait travailler de manière différente. Vous soulignez à juste titre le fait qu'il y a eu longtemps des manchettes du Parisien avec sondage et le titre en dessous, voilà. Eh bien, ça, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez plus pendant quelques mois, pendant la séquence. On va voir combien de temps. Moi, c'est une expérience qu'on fait. Vous voyez, c'est notre métier, c'est aussi de l'artisanat.
Admettons que d'un seul coup, il y a une tendance sondagère particulièrement spectaculaire qui vous annonce du jour au lendemain que Jean-Luc Mélenchon va écrabouiller le candidat de gauche, écrabouiller Marine Le Pen. Je dis ça totalement au hasard, etc. Qu'est-ce que vous faites si tout le monde la commande ce jour-là ?
Ah mais moi je ne m'interdis pas, on va pas vivre comme des ermites. C'est-à-dire... On est dans un écosystème, vous voyez.
Donc concurrentiel.
Très concurrentiel. Moi ma volonté, c'est que quand il y a une conférence de rédaction le matin autour de la table aux Parisiens, c'est que on débatte d'abord d'idées, de reportages et que ce soit ça qui guide les choix qu'on va faire et la une qu'on va porter le lendemain.
Est-ce que vous dites, interdisez par exemple de citer un sondage commandé et financé par Le Monde, par Le Figaro, par France Inter ?
Évidemment non. Ce que je vous dis, c'est que c'est notre propre travail, notre propre moteur, notre approche, elle doit être guidée par autre chose, en tout cas c'est ce qu'on souhaite.
Vous allez réaliser
pour
des économies ?
Alors, oui, c'est la question que tout le monde me pose, mais des économies... Enfin,
combien ça coûte, les sondages ?
C'est une goutte d'eau. Je dirais que sur une année, c'est quelques dizaines de milliers d'euros. Et pour parler de grands ensembles, à la louche, hein, le Parisien, c'est un chiffre d'affaires annuel d'un peu moins de 200 millions d'euros. Donc, quelques dizaines de milliers d'euros, moins de 100 000 euros par an, c'est vraiment pas énorme. Ça coûte plus cher.
Oui.
Je pense d'ailleurs, enfin je devrais pas dire ça. Je sais pas si on m'écoute, mais ça coûte plus cher.
Si je confirme, hein.
Allez-y tranquillement.
Bon alors, ne le répétez pas. Mais je pense effectivement que ça coûte plus cher d'avoir des gens sur le terrain, des reporters, que de commander un sondage et d'en faire le commentaire. Ça coûte plus cher d'avoir des équipes sur le terrain, mais aussi, c'est aussi une des particularités du Parisien. Là, on parle beaucoup des sondeurs, on parle pas de notre façon de travailler, façon dont je souhaite
qu'on
aborde
ça. Parce que l'opinion populaire, c'est l'ADN du Parisien.
Absolument.
On le voit à travers ce qu'on pourrait appeler ces espèces de petits micro-trottoirs.
Oui, hein.
Vous le faites sur Voie Express. Vous le faites sur des sujets locaux, nationaux, même internationaux.
Bien
vous l'avez
sûr.
Fait récemment, par exemple, sur la Tunisie, en interviewant des Tunisiens sur le démon djihadiste. Donc c'est toujours une petite vignette, portrait, une déclaration. On sait bien que ça ne représente en rien un échantillon national. Ça n'est pas représentatif. Ce sont juste des passants, des lecteurs, etc. Qu'est-ce que vous allez privilégier pour remplacer cette place que libère dans les pages, la place est très précieuse dans un quotidien. Ces infographies, l'argent que ça libère éventuellement. Plus de reportages sur le terrain, plus d'interviews d'hommes politiques, plus de papiers d'édito, plus d'analyses d'experts, plus de pour-contre. Quelle décision éditoriale vous avez prise, justement ?
C'est j'allais dire, non pas un retour aux sources, mais c'est une intensification de ce qu'on fait déjà beaucoup. Notre travail.
Du terrain,
c'est de détecter ce qu'on appelle aujourd'hui les signaux faibles, ce que d'autres appellent les angles morts, c'est-à-dire de passer du temps avec les gens, de discuter avec eux. Tout à l'heure, vous citiez le cas de Mélenchon, qui est une des belles inconnues de cette élection. En tout cas, il y a pas mal d'interrogations autour de son cas. Il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui autour de ce qu'est le vote ouvrier. Est-ce que ça existe encore, le vote ouvrier? Actuellement, on travaille là-dessus, voilà, je vous le dis, comme d'autres médias. Mais plutôt que de faire un sondage en ciblant une population particulière, en allant chercher une CSP, etc., en décortiquant tout ça.
Une catégorie socio-professionnelle.
Qu'est-ce que ça coûte, sinon du temps, de l'énergie et un petit peu d'argent, mm-hmm. que d'aller passer quelques jours à sortie des usines, dans des quartiers populaires, de passer du temps à discuter avec les gens, de passer du temps à humer l'air du temps? C'est ça notre métier, et c'est comme ça qu'on va travailler. Un autre exemple très, très simple, à la sortie de la primaire, on sent bien qu'il y a un flottement énorme dans ce qu'on appelle le peuple de gauche. Évidemment, on peut commander un sondage, là aussi, pour dire comment vous avez vécu la primaire, est-ce que vous pensez que après le résultat de la droite, l'arrivée de Fillon qui explose tout, est-ce que vous pensez que vous êtes armé pour faire quelque chose? Eh ben, on a décidé plutôt de choisir des circonscriptions qui sont des bastions historiques du PS, d'aller passer 48 heures là-bas. Et croyez-moi, c'était très, très intéressant.
Est-ce que les sondages, vous donnant de futurs champions, par exemple, déforment chez vos journalistes politiques la place qu'on accorde à certains candidats?
Non, je ne pense pas, parce que justement, on a quand même une des particularités du journal, et c'est un débat hein, au sein de notre service politique, c'est très intéressant, mais une des particularités du journal, et ça c'est transverse dans tous les services, c'est que ce sont des gens qui ont le goût du terrain, qui sont issus pour la plupart, pour beaucoup, de l'information locale aussi, qui ont connu ça, et c'est quand même, je dirais, un petit peu le nerf de la guerre chez nous. Mais ma volonté et notre volonté collectivement de faire une pause dans les sondages,
c'est période où justement les lecteurs et les citoyens en règle générale perdent confiance dans les médias. Parfois, il faut savoir dire qu'on s'est trompé, non?
Oui, mais il faut savoir dire aussi qu'on va passer plus de temps avec eux. Voilà, et c'est ça qu'on veut leur dire à travers cette démarche.
Est-ce que, dernière question, vous allez renoncer au sondage dans d'autres champs que la politique au sens électoral du terme, pour ou contre la fessée, pour ou contre le passage à l'heure d'hiver, pour ou contre l'ouverture des magasins le dimanche?
Non, c'est un autre registre.
C'est un autre registre.
C'est vraiment un autre registre sur les phénomènes de société, les phénomènes longs, et là où on n'est pas dans la capture d'un instantané ou dans un pronostic, je pense que ça a une valeur qui peut rester intéressante.
Donc ça vous maintenez.
On ne s'interdit pas.
Eh bien, on fera un bilan de tout ça. Vous reviendrez.
Volontiers.
Merci beaucoup, Stéphane Albouy.
Merci à vous.